7h24 minutes. Nos deux invités que vous connaissez très bien, Monique Néron et Émilie Perrault, vont nous proposer dans les prochaines semaines leur film documentaire La parfaite victime. Qu'est-ce que c'est qu'une parfaite victime? Ben, c'est une victime qui donne des outils à la couronne pour faire condamner un agresseur. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est parfaite? Habituellement, c'est une victime qui rapidement va porter plainte, va donner beaucoup de détails, va se souvenir de choses très précises. C'est quelqu'un aussi qui n'ira pas se contredire entre sa version donnée aux enquêteurs en interrogatoire principal, en contre-interrogatoire. Et idéalement, s'il y a un témoin qui a pu assister à l'agression, c'est encore mieux. Comprendrez que ça arrive à peu près jamais. Et c'est pour ça qu'elles ont choisi ce titre. On écoute un extrait de la bande-annonce.
La loi étant ce qu'elle est, ça va prendre beaucoup d'imagination et de courage pour arrêter mon agresseur.
Ça envoie un drôle de message pour une personne qui est victime puis qui n'a pas pu se défendre.
Est-ce qu'on a une entrevue politically correct ou on a une entrevue pas politically correct?
Moi, j'aimerais ça que ce soit pas politically correct.
Ça ne sera pas.
C'est une machine qui va avoir le meilleur avocat, qui va avoir la meilleure parole.
Avez-vous fait acquitter beaucoup de clients d'agression sexuelle?
Je n'ai perdu aucune cause d'agression sexuelle.
Ils ont tous été acquittés?
Oui.
Les victimes doivent être presque parfaites.
On m'a demandé de quelle couleur étaient les rideaux dans la pièce où je me suis fait violer à 4 ans, tu sais.
Monique, Émilie, bonjour.
Bonjour, Paul.
Bonjour, Paul.
C'est important parce que ce film arrive, bon, on se parle aujourd'hui, c'est 8 mars, il y a 5 femmes qui ont été assassinées au Québec depuis un mois. Il y a d'autres femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles depuis un mois. Puis il y a d'autres femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de violences, puis je dis des femmes, mais des hommes aussi, dans le passé, puis qui décident de porter plainte. Et l'exercice qui est difficile avec un film comme celui-là, c'est de décourager les gens à porter plainte. Monique, j'aimerais t'entendre là-dessus.
Oui, puis c'est pas ce qu'on a voulu faire. Je pense que c'est important de mentionner parce que c'est sûr que c'est un exercice, un examen du système qu'on a voulu faire, mais on n'a pas voulu décourager qui que ce soit de porter plainte dans un système qui est quand même capable d'accueillir actuellement les victimes. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été faits du côté des policiers au cours des dernières années. On s'est intéressé parce que dans la foulée du mois aussi, on recevait une quantité phénoménale de témoignages de gens qui disaient: on a essayé d'aller dans le système et on nous a fermé la porte pour toutes sortes de raisons, justement celles que tu viens d'évoquer. On n'avait pas ce qu'il fallait pour aller de l'avant. On nous disait être cru. Les procureurs disent « oui, je suis convaincue qu'il y a eu agression sexuelle, mais on n'ira pas de l'avant pour toutes sortes de raisons ». Alors, c'est comme ça qu'on s'est intéressé au système. Et je pense que c'est important de le faire tout en gardant en tête qu'on n'est pas en train de dire aux gens « n'allez pas ou ne tentez pas votre chance dans ce système-là ».
Au contraire, moi, si je peux ajouter, je dirais même que ce film-là permet d'éduquer puis de comprendre. Tu sais, des fois, je pense qu'il y a des victimes qui se disent « Coudonc, je suis folle? Pourquoi je suis pas capable d'aller plus loin? » Puis là, c'est comme si, en regardant le film, on leur explique « Regardez, ça bloque ici, il y a un problème ici, puis il y en a un autre ici. » Alors, si vous passez à travers ce système-là, c'est ça qui vous attend. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de le faire. Mais en sachant quelles sont les failles, je pense que les gens vont être mieux préparés par la suite pour se rendre s'ils décident d'y aller dans le système judiciaire.
Il y a eu, bon, beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment pour créer soit un tribunal spécialisé. Là, il ne s'agit pas de changer le code criminel, mais peut-être avoir des gens qui ont une meilleure formation, plus sensible, notamment dans l'accompagnement des victimes. J'avoue qu'en regardant le film, il y a un moment où ça surprend de se dire, attends un peu, quelqu'un arrive pour porter plainte, puis il me semble que, je ne dis pas qu'on la laisse naviguer seule, mais on ne met pas en lumière ce qui l'attend trop, là. C'est-à-dire, puis là, on voit quelques criminalistes, disons, avec beaucoup d'expérience pour aller chercher la moindre faille, la moindre contradiction, le point faible. Autrement dit, là, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui a été victime d'abus à 4 ans, comme on l'a pu entendre dans la bande-annonce, se souvienne de la couleur du mur avec précision, puis se souvienne d'un paquet de détails comme ça, non?
Exact, et c'est beaucoup là-dessus qu'on va l'attaquer, et sur une panoplie d'autres détails dont elle se souviendra pas, ou des mots qu'elle a prononcés dans sa première déclaration qu'elle va redire d'une différente façon par la suite, et les criminalistes en contre-interrogatoire vont utiliser ça pour essayer de détruire sa crédibilité, parce que règle générale, ce qu'on a constaté à force d'en interviewer, c'est qu'ils ont que ça pour arriver éventuellement à un acquittement, c'est-à-dire d'attaquer la crédibilité de toutes les façons que ce soit. C'est pas toujours très moral même, ils ont des tactiques et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans le film, certains criminalistes nous ont dévoilé ces tactiques-là pour déstabiliser une plaignante ou un plaignant. Alors, il y a des hommes aussi qui portent plainte et qui traversent ce mauvais quart d'heure qui est le contre-interrogatoire. Et on parle pas de contre-interrogatoire mené il y a 20 ans, là. On parle de contre-interrogatoire mené dans les derniers mois, les dernières années qui sont tout aussi pénibles pour les victimes.
Dans le film, et souvent on dit dans les films, ça prend des vilains. Vous avez un vilain qui est un avocat criminaliste qui donc représente des gens accusés et qui dit, très fier de lui, là, en se bombant le torse, qu'il n'a jamais perdu de cause, qui a fait acquitter où les procédures sont tombées dans tous les cas où il a été impliqué. Ce qui m'amène à vous parler de cette notion de doute raisonnable qu'on a longuement parlé dans le procès Roson, dans le procès Salvaille, où tu dis, OK, c'est pas sûr que je crois Éric Salvaille, je suis pas certain de croire Gilbert Roson, mais j'ai un doute raisonnable, donc je peux pas le condamner. C'est quoi le doute raisonnable, Monique?
Oui, c'est une notion qui, selon ce qu'on a cru comprendre en interviewant justement de nombreux juristes, qui est à la base de tout, mais qui demeure quand même très complexe et surtout très floue. Quand on leur demande de la définir, ils ont une définition, mais il n'y a pas personne qui ne cherche pas un peu c'est quoi la bonne définition. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant quand on met ça en perspective, parce qu'on se dit, OK, parfait, tout repose là-dessus, mais encore, tu sais, est-ce qu'on peut quand même s'asseoir puis discuter du doute raisonnable? Puis j'ai l'impression qu'on n'avait comme jamais vraiment posé la question de façon aussi concrète. Dans le fond, je sais pas si Émilie, tu peux en ajouter là-dessus.
Oui, ça donne une scène, disons, qui est assez savoureuse. Puis moi, j'irais encore plus loin, la question aussi des biais inconscients, c'est-à-dire que le doute raisonnable, c'est dans l'esprit du juge. Mais là, après, la question, c'est, mais si ce juge-là, sans le savoir, a des préjugés sur une situation, s'il n'est pas au fait de la psychologie, par exemple, d'une victime, qui ne comprend pas la neurobiologie de ce qui se passe pendant un traumatisme, bien, ça pose problème parce que ton doute raisonnable, il est basé sur quoi? Peut-être sur des informations erronées. Et là, il y a toute la question de l'éducation au juge. Et ça, on sent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de résistance de la part des juges qui sont pas très intéressés par le projet qui avait été mis de l'avant par Rona Ambrose, qui demande, en fait, à ce qu'il y ait une formation obligatoire pour les juges.
En fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très réfractaires à se faire imposer de la formation. Ils disent pas que c'est pas important, là, c'est pas ça du tout. Puis il y en a beaucoup de la formation déjà, mais ils veulent pas s'en faire imposer, alors que dans certains cas, puis on le démontre dans le film surtout, ça peut faire une réelle différence, justement pour venir contrer ces biais inconscients-là, qui sont le bagage tout à fait normal et humain d'un individu selon d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Et on s'entend, là, je veux dire, dans la magistrature, il n'y a pas énormément de diversité non plus, hein. Donc, c'est pas un reproche, là, pas du tout. C'est juste que c'est important quand même de considérer le bagage de vie et culturel de ces juges-là et de s'assurer qu'ils ont toutes les connaissances nécessaire en matière justement de neurotrauma. Puis quand on dit neurotrauma, ça peut paraître bien compliqué, mais c'est aussi simple de comprendre qu'une victime d'agression sexuelle va être en mode survie au moment où elle se fait agresser, comme un animal qui va figer, par exemple, ou qui va courir. Il y a comme deux options, puis souvent, c'est pas logique la façon dont elle va agir, et c'est ça qui va lui nuire par la suite. Mais c'est important de comprendre ça, comment le cerveau fonctionne, et comment le corps fonctionne quand il a peur pour sa vie.
Je voudrais vous amener sur le cas du gouverneur Cuomo de l'État de New York, qui évolue très rapidement. Il y a une première femme qui lève la main, une assistante, une aide, là, qui raconte que, bon, il y a des commentaires déplacés qui provoquent un malaise. Cuomo qui l'interroge, conversation, comme on dit, légère, mais quand même, il pose des questions. As-tu un copain dans la vie? As-tu déjà eu un amant de mon âge? Je trouve ça un peu dérangeant. Puis une deuxième vient témoigner, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Elle ne porte pas plainte comme telle, mais décide, après un premier cas, de suivre dans le débat public. Puis on l'a vu cet été dans le cas de gens qui ont préféré aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer des agresseurs. Quand on regarde ça, il n'y a pas un danger que ça dérape à un moment donné, que des accusations anonymes ou qu'on s'inscrit dans une espèce de corridor de plainte, ben ça repose pas sur quelque chose de bien solide.
Mais oui, c'est tout à fait, il y a un danger de dérapage, puis il y a aussi, je te dirais même, un danger de dévier le débat, parce que je pense que dans les faits, il faut qu'on reconnaisse que c'est un problème de société. Il y en a énormément des comportements comme ça qui sont complètement déplacés. C'est beaucoup plus répandu qu'on pourrait croire. Et le problème, c'est qu'à partir du moment, effectivement, où il y a des dénonciations comme ça qui se font sans aucun, je veux dire, pas dans les règles de l'art, ben oui, il va forcément, dans ces cas-là, y avoir un ou deux cas qui vont être, par exemple, de fausses accusations. Et là, toute l'attention va être tournée vers ça. Alors, pour moi, c'est comme si ce tribunal populaire-là qu'on voit, entre autres, sur les réseaux sociaux, c'est la conséquence de ce qu'on explique dans le film. C'est-à-dire que quand tu te retournes vers l'autorité puis qu'elle n'est pas là, puis toi, tu le sais que tu as été agressé puis que tu as vécu quelque chose qui n'a pas de bon sens, ben il y a un moment où tu sens le besoin de parler. Puis il y a beaucoup de victimes qui prennent la parole parce qu'ils ont peur que leur agresseur commette d'autres agressions. En moyenne, un agresseur va faire 6 victimes. C'est pas rien. Donc, il y a comme ce besoin-là de prendre la parole, mais je suis d'accord avec toi, Paul. Il y a effectivement un danger de dérapage. C'est la raison pour laquelle il faut que le système judiciaire fasse un travail d'introspection, parce qu'on veut pas que ça aille de ce côté-là, bien évidemment.
Il y a quelque chose qui frappe aussi dans le témoignage des victimes, parce qu'au-delà de d'empêcher que quelqu'un agresse ou viole d'autres personnes, il y a ce besoin qu'on sent dans les témoignages d'être cru. De gens qui l'ont dit parfois à des proches, à des amis, des parents qui l'ont pas cru, le système les croit pas. L'importance de dire, y a-t-il quelqu'un qui va me croire que ça m'est arrivé pour vrai? Monique.
Et je pense que les victimes cherchent cette reconnaissance-là, qu'on leur dise « oui, c'est arrivé ». Et que ça passe par un procureur, que ça passe par un juge qui va octroyer une condamnation, c'est absolument une quête qui est très très importante. Et c'est vrai que on se le cachera pas, là, les agressions en bas de 18 ans sont très fréquentes, là, et c'est sûr que des fois ça remonte à un certain laps de temps. Et souvent ces enfants-là ont essayé d'appeler à l'aide quand ils étaient petits, et on les a rabroués, on ne les a pas crus, ou on leur a demandé de se taire. Et c'est évident que ça laisse des traces, ça laisse des marques très, très profondes. Et là, ils se retrouvent devant un tribunal, et ils souhaitent justement qu'on reconnaisse, ça fait partie de leur réparation de ce qu'ils ont vécu. Et c'est fou de dire que les victimes cherchent absolument avoir leur agresseur en prison. Puis c'est pas ça la finalité. Puis d'ailleurs, dans le film, on remet pas en doute le fait qu'il y a des condamnations. Je suis certaine qu'il y a des procureurs qui nous écoutent en disant, parce qu'il y a des procureurs qui font magnifiquement bien leur travail, qui sont d'ailleurs très humains et très rigoureux. L'ennui, c'est qu'il semble y avoir une espèce d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on semble aller à la cour avec des dossiers qu'on est à peu près sûr de pouvoir gagner. On en laisse énormément dans les bureaux du DPCP, et c'est là où il y a un questionnement, je pense, à y avoir, parce que c'est là où certaines victimes ont l'impression d'être abandonnées et laissées pour compte. Puis on a un cas très, très flagrant dans le film, c'est un homme qui s'appelle Marcel, et son histoire, c'est ce qu'elle démontre, quand le DPCP décide d'y aller de l'avant, ben ça peut avoir des impacts très importants autour. Il y a des gens qui finissent par libérer eux aussi leurs paroles. Donc parfois le fait que le DPCP approuve une plainte, ben ça va permettre à d'autres gens peut-être de venir témoigner en faveur de la personne. Donc c'est très important cette notion-là effectivement d'être cru.
La date de sortie n'est pas encore arrêtée, mais ce sera dans les prochaines semaines. Ce sera au printemps, bien sûr. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous.
Merci, Paul.
Salut, bonne journée.
Merci, Paul.
Monique Néron, Émilie Perrault, le film à venir, La parfaite victime.